l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de progrès.
L'Europe du côté de chez nous.
Une coproduction Radio BLV, Maison de l'Europe, Drôme Ardèche. L'Europe du côté de chez nous. Une émission qui présente ce que fait l'Europe sur nos territoires, en donnant la parole aux femmes et aux hommes de Drôme et d'Ardèche, engagés sur des projets en lien avec l'Europe.
Cette émission vous est présentée par Ardiana Tosca, enseignante spécialisée sur les questions européennes, et Anna Gasquet, responsable du Centre d'information Europe Direct Drôme Ardèche.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Anna.
Bonjour Anthony.
Bonjour Anthony.
Bonjour
à vous.
Bienvenue à nos auditeurs pour cette première émission de 2022. On réattaque cette année avec nos émissions L'Europe du côté de chez nous. Et puis tout d'abord, de la part de toute l'équipe de la Maison de l'Europe, nos meilleurs vœux pour 2022.
Une bonne année.
Une bonne année, beaucoup de santé, voilà, bonne santé, beaucoup de bonheur. Et on vous souhaite vraiment le meilleur et d'être surtout optimiste pour cette nouvelle année 2022.
Que 2022 soit placé sous le signe de la rencontre.
Exactement. Et nous, on va vous faire rencontrer des personnes de manière interposée grâce à ce média de la radio. Et on va débuter avec un invité cette année pour parler de notre sujet focus du mois. Quel est-il, Ardiana ?
Alors, on va parler justement d'un événement important qui concerne la France, de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. La France, donc 13 ans après sa dernière présidence, qui était en 2008, la France prend justement cette tête d'une précédente tournante du Conseil de l'Union européenne pendant 6 mois, du mois de janvier jusqu'à fin juin. Donc, quelles seront les missions et les objectifs de cette présidence française de l'Union européenne? Mais ça, on va voir justement avec notre invité du jour.
Notre invité, voilà, qu'on a rejoint par téléphone, Henri Oberdorf, qui est président de l'Université populaire européenne de Grenoble, ancien professeur émérite à l'UGA en droit européen. Et l'Université populaire européenne de Grenoble est également membre de l'association URAL, l'Union régionale pour les acteurs locaux européens. En Auvergne-Rhône-Alpes, dont est membre également la Maison de l'Europe Drôme Ardèche. Donc on fait partie un peu de la même famille. Bonjour Henri.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour répondre à quelques questions, pour nous présenter cette présidence française du Conseil de l'Union européenne. Parce que voilà, on souhaitait commencer cette année par un focus fort là-dessus, puisque c'est quand même un fait assez exceptionnel que la France soit à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Est-ce que c'est possible de nous en dire un petit peu plus sur cette présidence? On parle des fois on parle de la PFUE, des acronymes un petit peu barbares. On parle des fois de la présidence de l'Union européenne ou du Conseil de l'Union européenne. Voilà, c'est un petit peu barbare. En quoi ça consiste et quelle est la différence?
En fait, on a un peu tendance effectivement à utiliser ce terme de PFUE, c'est-à-dire présidence française de l'Union européenne. Et effectivement, ce n'est pas exact.
Oui.
Parce que en fait, il y a un Conseil européen qui a un président permanent, qui est Charles Michel, et par conséquent, la France ne peut pas présider le Conseil européen. Il y a un Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire la réunion des ministres qui sont effectivement... c'est cette institution que la France va présider pendant 6 mois. C'est sa 13e présidence depuis qu'existe le système de présidence tournante.
Oui.
Et on est dans un dispositif, en quelque sorte, de trio. Après l'Allemagne, Portugal, Slovénie, on est dans un dispositif France, Tchéquie, Suède.
D'accord.
Mais alors, en quoi consiste l'émission de l'État français dans le cadre de cette présidence de l'Union européenne?
La France préside ce Conseil de l'Union, c'est-à-dire les réunions des ministres européens dans tous les domaines importants, bien évidemment. Il y a un domaine où il y a déjà un président permanent, c'est le Conseil de l'Union Affaires étrangères avec Joseph Borrell. Mais Pour cette présidence, la France a fait toute une série de propositions et il y a un programme en quelque sorte qui a été proposé par la France sur trois thèmes: relance, puissance, appartenance.
D'accord.
Et c'est un peu, disons, sur ce thème-là que la France propose toute une série d'évolutions.
Et puis, est-ce qu'il y a des choses concrètes, voilà, qui...
Oui, alors des choses concrètes, bien sûr. D'ailleurs, le président qui s'est exprimé tout à l'heure
aujourd'hui,
devant le Parlement européen, a fait aussi toute une série de propositions concrètes. Lorsqu'on dit qu'une Europe peut être plus souveraine, ça veut dire, par exemple, en termes de puissance, c'est la question de la réflexion sur la maîtrise des frontières, la régulation des migrations, c'est la réflexion sur la politique de défense, la politique extérieure de l'Union. Si l'on regarde la question de la croissance, en quelque sorte, de la relance, et donc de la croissance, c'est tout ce qui concerne une politique industrielle, un agenda climatique, la question numérique, la dimension sociale. Et enfin, le troisième terme qui est appartenance, c'est l'idée d'une Europe plus humaine. Alors c'est de la défense des valeurs européennes, de la culture européenne, pour qu'il y ait des avancées significatives. Il ne faut pas oublier que 2022, c'est l'année européenne de la jeunesse aussi, et donc cette dimension est importante.
Oui, on en reparlera d'ailleurs vers la fin de cette émission. On va faire un petit focus sur cette année européenne de la jeunesse. Mais en fait, avant cela, continuons sur la présidence française de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne. Est-ce que vraiment, en fait, la France a une réelle influence de faire bouger les choses dans un sens en 6 mois? Est-ce que c'est vraiment possible?
Alors là, la réponse, on pourrait la faire tout de suite. C'est, au fond, l'influence de la France, c'est les idées qu'elle propose, les idées qu'elle lance et qui sont susceptibles d'être reprises, bien sûr, dans les réflexions du Conseil européen, c'est-à-dire des chefs d'État et chefs de gouvernement. C'est une influence politique. Et puis l'autre aspect de l'influence, mais alors c'est plus technique, c'est la présence de la France à tous les échelons, si l'on peut dire, des discussions aujourd'hui dans les différents conseils des ministres. Alors c'est vrai que 6 mois c'est court, mais c'est plus en quelque sorte une influence par les idées lancées en quelque sorte, qui peuvent se réaliser dans les 6 mois, c'est plutôt difficile, mais qui peuvent ensuite avancer, bien sûr. Donc on est dans un dispositif, et certains disent peut-être qu'il faudrait remettre en cause même cette présidence tournante, parce que 6 mois c'est un peu court pour avancer. Mais lorsqu'on évoque au sein du Parlement européen l'idée de souveraineté, de solidarité, mais très concrètement de salaire minimum par exemple,
oui,
de
révolution
numérique
par la France, oui.
Par exemple, c'est beaucoup plus précis.
Oui.
Cette présidence française de l'Union européenne se passe au même moment où il y a aussi l'élection présidentielle. Quel sera justement l'impact de cette élection présidentielle sur la présidence française du Conseil de l'Union européenne ?
Alors, sur ce registre-là, si vous voulez, la question de la présidentielle, effectivement, entrave un peu cette présidence française du Conseil, c'est clair. Alors, il y a déjà eu le même phénomène, le même mouvement en 1995, on l'oublie un petit peu, mais le passage de relais entre François Mitterrand et Jacques Chirac s'est fait pendant la présidence française aussi. Mais à l'époque, la chose était différente puisque le président Mitterrand n'était pas candidat à sa éventuelle réélection à ce moment-là. Là, on ne sait toujours pas d'ailleurs si le président Macron est candidat à sa réélection, il ne l'a toujours pas dit, mais vraisemblablement ça sera le cas. Et alors là, ça pose effectivement, ça perturbe, si l'on peut dire, cette présidence, dans la mesure où, à partir du mois d'avril, on va avoir les effets de la nouvelle élection présidentielle. Et évidemment, si c'est le même président qui reste, ben, ça va se suivre. S'il y a un changement, ça sera peut-être un peu plus complexe à organiser rapidement.
Mais je pense que peut-être il doit y avoir aussi au niveau de l'Union européenne un large appareillage qui est mis à contribution de cette présidence. Et que le fait que ce ne soit pas le même président peut-être ne perturbera pas autant le fonctionnement de la présidence de l'Union européenne.
Oh, mais disons, cré- créer des difficultés pour l'Union européenne, je ne les vois pas trop là, parce que le programme français est lancé, donc les réunions peuvent poursuivre en quelque sorte sur les idées, et puis incontestablement, des conseils européens peuvent se tenir, avec un nouveau président, nouveaux ministres. C'est simplement la mise en place de nouveaux responsables politiques en France qui serait plus complexe par rapport à une présence à Bruxelles. Vous voyez, c'est plutôt côté français plus de difficultés de mise en place des choses.
Et par rapport à ces objectifs, pour en revenir aux ambitions affichées, est-ce que vous voyez un dossier sur lequel ça va être très compliqué ou au contraire où la présidence a peut-être la possibilité d'avancer, de faire avancer ce dossier-là ?
Sur des sujets, disons, qui sont déjà un peu avancés, ça peut aboutir pendant la présidence française. Parce qu'il y a des sujets qui sont déjà, disons, en route, si l'on peut dire. Si l'on prend la question numérique, par exemple, avec le DSA, le DMA, qui sont des dispositifs pour réguler le numérique, là, je pense qu'on peut avancer. Sur la question du salaire minimum, il y a déjà des travaux et on peut avancer. Sur la question de la boussole, la boussole qui a été imaginée en quelque sorte sur les questions de politique étrangère, par exemple, il me semble que là, ce qu'on appelle la boussole stratégique en matière de défense, on peut avancer. On vient d'avoir une réunion intéressante des ministres de la Défense et des ministres des Affaires étrangères à Brest, qui montrent que dans ces sujets-là, on peut avancer très concrètement. Ça me permet de glisser le fait qu'un certain nombre de conseils des ministres vont se passer en France, dans beaucoup de villes françaises.
Oui.
Et c'est tout à fait intéressant. Et Brest, effectivement, ça vient de se dérouler. Ça sera ensuite vers Amiens. Et puis à Grenoble aussi, il y aura un conseil des ministres de la Santé.
D'accord.
Et donc, cette présence sur le territoire français est, à mon avis, très intéressante.
Oui, c'est assez nouveau. Ça permet un peu de sortir de la capitale.
Tout à fait.
Et est-ce qu'il y a d'autres grands rendez-vous de cette présidence française ?
Ah oui, alors parmi les grands rendez-vous, il y a un grand rendez-vous qui concerne la réunion entre l'Union européenne et l'Union africaine. Et là, c'est un grand rendez-vous qui a lieu en février 2022, un sommet Union européenne-Union africaine, qui a déjà été évoqué d'ailleurs à Brest lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères. Je crois que ça va être un moment fort et un moment important où l'Europe et l'Afrique vont dialoguer de manière importante, bien sûr. Je crois que ça, là, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que si on regarde les événements, il y a à peu près 20 réunions informelles des ministres qui sont programmées. Il y a la nuit des idées européennes, le 27 janvier. Il y a beaucoup d'autres activités sur le plan culturel, mais je pense que la réunion Union africaine-Union européenne est un moment privilégié et important.
Et puis, il y a également la conférence sur l'avenir de l'Europe qui a démarré déjà en mai 2021 et qui donc doit se conclure pendant cette présidence, au printemps. Est-ce que la France, le président Macron a été notamment à l'initiative du lancement de cette idée, je crois. Est-ce que vous voyez un rôle particulier pour la France pour participer à en faire un succès de cette conférence?
Je suis un peu réservé parce que j'ai le sentiment qu'elle est moins connue qu'elle pourrait l'être de la part des Français sur ce registre-là. Lorsqu'on regarde les participations pour cette conférence sur l'avenir de l'Europe, elle reste quand même modeste. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des propositions pour avancer. Par exemple, parmi les propositions que j'ai vues apparaître, y compris à Grenoble, eh bien, il y a cette idée qu'il faudrait aller vers des affaires étrangères européennes, une puissance européenne. J'ai le sentiment que les Européens de base, si l'on peut dire, sont plus dynamiques que les autorités publiques sur un certain nombre de sujets. Ça va prendre du temps. D'ailleurs, lors du débat qui s'est déroulé tout à l'heure au Parlement européen, les présidents de groupe, certains d'entre eux, ont dit qu'il fallait que ce soit concret, que ça avance.
Oui, Alors juste pour nos auditeurs, puisqu'on n'est pas en direct, cette présentation a lieu donc, ou a eu lieu le 19 janvier. Donc le président Macron a fait cette présentation devant les eurodéputés au Parlement et d'ailleurs devant la toute nouvellement élue présidente du Parlement européen.
Oui.
Je voulais vous demander justement, le président de la République, il a tenu un discours devant le Parlement européen le mercredi 19 janvier. Et je voulais avoir votre avis par rapport justement à l'adhésion européenne des autres États membres à ce discours.
Moi, je trouve que sur beaucoup de sujets, les autres États membres partagent les orientations de la France globalement, sur la question de la démocratie, sur la question du progrès économique, sur la question de la paix. Et les choses avancent plus qu'on ne le croit souvent, par exemple sur les questions de souveraineté, de défense. Il y a là des avancées qui sont significatives. Ce que je regrette à cette occasion de ce discours du président, c'est que à certains moments, on a eu le sentiment, surtout de la part de députés français, qu'on était plus en campagne électorale pour la présidentielle, y compris au Parlement européen.
Et, oui.
Et ça, c'est un peu dommage, parce qu'on donne une image, disons, pas forcément sereine, en quelque sorte, de notre pays.
Et oui, ça c'est le risque, disons l'écueil de cette télescopage de ces deux temps de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et en même temps cette présidentielle qui arrive bientôt. Merci beaucoup Henri Oberdorf. Donc je rappelle, vous êtes président de l'Université populaire européenne de Grenoble. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission l'Europe du côté de chez nous pour nous faire cet éclairage très intéressant sur la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui démarre et qui durera donc jusqu'au mois de juin 2022.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. You say
Et c'était le groupe The Rasmus, un des 10 meilleurs groupes finlandais, d'ailleurs, qui chantait ici « In My Life ». Donc voilà, on a accueilli Henri Oberdorf tout à l'heure, notre invité du mois qui nous a parlé de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et maintenant, c'est le moment, Anthony, de faire un petit point sur l'agenda du Centre Europe Direct Drôme Ardèche et les activités du mois de janvier-février 2022.
Et la Maison de l'Europe est sur les routes pendant ces mois. Oui, on va à la rencontre des lycéens et des collégiens, beaucoup, pour préparer les forums post-bac, déjà, parce que l'Union européenne a son mot à dire là-dessus, avec tous les dispositifs de mobilité qu'elle met en place à destination des étudiants.
Et l'Erasmus+, aussi, en ce moment, qui est élargi à des professionnels, à des enseignants, à plus d'étudiants. Et il y a, voilà, un fonds financier beaucoup plus important pour Erasmus+.
Et si jamais...
Donc, il y a de quoi faire.
Des intéressés par le voyage nous écoutent. C'est le moment de profiter de l'Union européenne, les amis, et de venir à notre rencontre. On va tout vous expliquer. On s'est aussi déplacé dans des lycées pour animer, préparer, aider les élèves à faire une simulation du Parlement. Ce sera dans deux lycées ces mois, et à chaque fois autour du pacte vert et de l'alimentation. Le pacte vert, évidemment, qui va être une des priorités de nous, la présidence française de l'Union européenne en ce moment. On rappelle les enjeux, un continent climatiquement neutre d'ici 2050. Et on demande aux élèves leurs avis sur cette question. Peut-être que c'est vous qui avez l'idée pour la bonne idée pour avoir un climat neutre d'ici 2050. Il va falloir du courage.
Et donc là, on est allé à Thun, au lycée hôtelier de Thun, et également au lycée Les Mandailles, en Nord-Drôme, à Châteauneuf-de-Gallore.
Châteauneuf-de-Gallore, exactement. De la route, je vous ai dit. Et c'est aussi l'occasion, là, le mois de février qui arrive, ça va être le lancement des fonds européens organisés par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Anna, peut-être que tu as quelque chose à nous dire sur ce lancement.
Exactement, ce sera pendant la semaine du 31 janvier au 4 février. Et donc, ça peut intéresser un très grand nombre de personnes sur notre territoire, parce que les fonds européens, qu'on appelle les fonds structurels, certains les connaissent par acronyme FEDER, FSE, FEADER. Bref, ce sont les fonds européens pour le développement régional, agricole, développement rural, pour le social, la formation. Et ce sont des fonds européens, mais qui sont gérés par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, du coup, alors il devait y avoir une semaine consacrée de présentation à Lyon en présentiel. Bon, la situation sanitaire fait que tout sera en visio. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, tout le monde pourra le suivre des quatre coins de la région, facilement. Et donc, je vous invite à vous connecter sur le site de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc du 31 janvier au 4 février. Il faut s'inscrire à l'avance. Il y a beaucoup de sessions pour ce qui est du développement rural, de si on veut mettre en place un projet dans le domaine de la culture, de la mobilité des jeunes, dans le domaine du numérique, de la santé. Donc, des sessions dédiées avec des experts qui vous présenteront qu'est-ce que sont ces programmes, qui peut y participer, quelles sont les procédures pour déposer un dossier. Donc vraiment, c'est une semaine, ça va être vraiment intéressant, et on vous encourage, si vous avez un projet à présenter, allez-y.
Jeunes entrepreneurs ou moins jeunes entrepreneurs, gardez ces dates sur l'agenda.
Associations, élus, voilà, toute personne.
Toute forme de projet est bienvenue, et vous pouvez peut-être y trouver votre plaisir aussi, hein, on ne sait jamais. Beaucoup plus loin dans le calendrier, le 28 février, on organisera là une soirée actualité européenne au centre d'accueil de la MEDA, au 186 avenue Victor Hugo. Ce sera l'occasion déjà de faire le bilan de ce premier mois peut-être d'Emmanuel Macron et de la France à la tête de la présidence de l'Union européenne. Ces mots, on les aura répétés aujourd'hui, sont vachement longs. Et beaucoup plus proche dans le temps, beaucoup plus pour vous, le 4 février, la soirée à la Maison pour tous du Petit Charan. Anna, présente-nous cette soirée, parce qu'a priori, il faut y être.
Voilà, on a deux invités de marque, Michel Rivasi, eurodéputé, et Monsieur Maldacker, qui est le consul honoraire pour l'Allemagne à Lyon.
Le consul quoi ?
Honoraire, une espèce d'ambassadeur de l'Allemagne basé à Lyon. Enfin, voilà, une personne qui va aider à créer le lien entre nos deux pays, le développement économique, disons un rôle diplomatique également. Et donc, on va faire un événement. On vous propose de venir à notre rencontre parce que c'est une soirée sur... On va reparler encore de cette présidence de la française du Conseil de l'Union européenne et donc des enjeux aussi en présence autour des questions qui nous concernent de près, la santé, le numérique, tout ce qui est social, la jeunesse. Et puis également, on a voulu inviter un représentant de l'Allemagne parce que l'Allemagne a changé de gouvernement depuis peu et nous avons envie aussi de mettre en avant le rôle de ce couple franco-allemand dans ce travail de porter en avant des enjeux importants pour la France et l'Allemagne dans le contexte européen.
Oui, ils ont un programme très progressiste et mobilisateur pour le projet européen, pour faire avancer le projet européen, très en phase justement avec le programme français, le projet français pour l'Europe.
Et voilà. La soirée du 4 février, voilà. Ce sera pour vous, chers auditeurs, l'occasion de rencontrer les hommes et les femmes qui font l'Europe, les hommes et les femmes politiques qui font l'Europe, qui souvent ont l'air loin de nous, simples citoyens, et on dirait une masse un peu informe, l'Union européenne. Elle se concrétise aujourd'hui à la MPT du Petit Charon le 4 février. On vous invite à venir nous voir à 18h.
Merci beaucoup Anthony pour donc cet agenda des activités du Centre Europe Direct en Ardèche pour ce janvier et février. Et puis maintenant, place à une nouvelle pause musicale. Là, on va voyager du côté de la Grèce.
De la Grèce, justement, j'ai choisi un des plus grandes figures de la scène musicale contemporaine grecque, Georges Dalaras, qui va chanter avec notre chanteur Georges Moustaki la version française du Metek, appelée en Grèce Metoikos.
Σαν σύννεφο απ' τον καιρό, μονάχο με τον ουρανό. Je vais demander de l'aide à Yorgos, έλα. Un tout petit problème dans cette chanson, mais qui va très bien passer, c'est que il chante beaucoup plus haut que moi. Alors je vais peut-être m'étrangler en fin de phrase, mais avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé dans le jardin. Avec ma bouche qui a bu et embrassé et mordu sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portent du bon. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire une histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire.
Σύννεφο απ' τον καιρό, μοναχό μες στον ουρανό, πήρα παιδί τους τρόπους. Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και την βροχή στους ώμους. Μ' αυτά τα σε χέρια σα φτερά που δεν εγνώρισαν χαρά, πάλεψα με το κύμα. Βαθιά μου μια πηγή, αγάπη που δεν βρήκε γη, χαμπαίνει μες στο κρίμα.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de sang, rêveur au bien de tous les sangs, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir.
Φάνε μια άνοιξη πικρή, όλα θα ανοίγουνε στη γη.
Απ' την αρχή θα αρχίσω.
Direct de Bruxelles.
Alors, en direct de Bruxelles pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as préparé, Ardiana ?
Alors, bien, aujourd'hui, en direct de Bruxelles, avec la nouvelle va concerner une ville, justement, de notre région. Il s'agit de la ville de Grenoble, qui est désignée comme capitale verte de l'Union européenne pour l'année 2022. Un titre qui honore et qui oblige à la fois... la ville de Grenoble pour cette année, pour cette nouvelle année.
Donc du coup, ce prix de la capitale verte européenne, ça existe depuis 2008. Ça sert à quoi en fait ces prix ?
Alors c'est un prix qui a été créé, comme tu dis, en 2008 et qui sert justement à compenser, à reconnaître les efforts fournis en matière environnementale d'une ville européenne. Par exemple, la ville en 2021, il y avait une ville, la ville finlandaise Lahti, qui était choisie comme ville européenne, capitale verte de l'Europe. Et cette année, on a le lancement, le titre officiel, qui est donné à Grenoble en tant que capitale verte. En effet, qu'est-ce qu'elle a fait la ville de Grenoble pour mériter ce titre de capitale verte européenne ? Justement, il a été reconnu qu'elle a fait de très grands efforts. Elle était au premier rang, justement, dans tous les efforts qui ont été faits par la ville de Grenoble pour atténuer le changement climatique dans le domaine de la mobilité urbaine durable, de l'utilisation durable des sols et du bruit et de la performance énergétique. C'est-à-dire, c'est un paramètre assez large, justement, des efforts par rapport à l'environnement.
Je me permets de citer les fameuses autoroutes à vélo de Grenoble qui ont été mises en place.
Et super.
Qui sont juste super agréables. Il n'y a plus de voitures dans ce centre-ville. C'est...
Et justement, oui, la ville a le mérite parce qu'en 2014, et la ville a aussi mis en place un plan climat local. Et selon selon l'Observatoire Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un observatoire justement des paramètres environnementaux, ces initiatives ont permis de réduire de 30% les émissions des effets les émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et 2018 pour la ville de Grenoble. Donc, c'est vraiment une performance énergétique assez importante et tout à fait qu'il faut valoriser et appuyer.
D'accord. Donc, en effet, une sacrée responsabilité pour la ville de Grenoble d'être capitale verte européenne 2022.
Ah oui, bien sûr. Donc, il y a pas mal d'efforts. Il faut continuer à fournir des efforts, mais aussi à mettre en place des activités. La ville de Grenoble a prévu 300 événements, animations, foires, colloques, conférences, balades, événements sportifs, ateliers.
Wow.
Justement, vous voyez qu'ils seront organisés tout au long de l'année. Et tous les Grenoblois, et nous aussi, petits et grands, on peut justement, sommes invités à y participer.
On va vous relayer d'ailleurs pendant toute l'année les événements organisés par nos collègues Europe Direct Grenoble. Ça a été le cas justement, on vous en a parlé récemment avec le lancement le 15 janvier officiel donc de cette capitale verte européenne. On va travailler aussi avec nos collègues de Europe Direct Grenoble autour de la jeunesse, l'engagement des jeunes avec une série de questions préparées par différents jeunes français et étrangers sur les questions de l'environnement et du climat adressées au maire de Grenoble, Monsieur Piolle, adressées au commissaire européen en charge de ces questions-là. Donc voilà, on va continuer à relayer toutes ces informations-là parce qu'il y en aura beaucoup et on vous invite bien sûr à le suivre de près.
Oui, et cette année européenne, c'est aussi une année très importante. L'accent va être mis surtout sur la jeunesse.
Voilà.
Et il y a un prix décerné aussi à une ville européenne qui est pour la capitale de la jeunesse européenne.
Ah
il
oui.
y a ce prix européen aussi.
Où se trouve-t-elle ?
Alors,
c'est Tirana.
C'est Anthony, voilà, c'est Tirana.
C'est bien
tout
ça.
À fait, c'est la ville
ah
de
oui,
Tirana.
C'est pour ça que tu en parles.
Exactement. Mais on
Alors,
aura l'occasion,
Anthony.
Oui.
Dis-nous un peu plus.
Parlons de cette année européenne de la jeunesse. Désolé, vous m'avez mis une sacrée colle avec Tirana. Là.
Alors, où se trouve Tirana ?
Deuxième colle, l'année européenne de la jeunesse, du coup.
La capitale de l'Albanie.
La capitale de l'Albanie, mais oui.
Mais oui.
Mais oui.
Le pays dans les Balkans occidentaux.
Et j'entends le jugement de tous nos auditeurs dans leur voiture actuellement. Désolé. L'année européenne de la jeunesse, l'Union européenne est partie d'un constat très très simple. Hein. Mmh. Ces deux dernières années de pandémie mondiale, au final,
ouais.
Ont été un poids pour le monde entier et surtout un frein pour la jeunesse qui aujourd'hui est confrontée, notamment la jeunesse étudiante, à plusieurs problématiques. La première, c'est comment finir ses études dans ces conditions. Le nombre de décrochages a été tout à fait incroyable.
La motivation pour finir ses études ?
Comment garder la motivation quand on est tout seul dans son appartement de 13 mètres carrés et qu'on ne peut plus aller à la fac, qui était le principal moyen de rencontre sociale ?
Ouais.
Évidemment, rester motivé devient une épreuve. Et si jamais vous avez réussi cette épreuve, que vous avez eu votre diplôme, la deuxième épreuve, c'est rentrer sur le marché du travail. Ce sont deux problématiques qui concernent les jeunes et qui concernent des jeunes qui ont été mis totalement à l'arrêt pendant 2 ans. L'Union européenne n'est pas aveugle sur ce point et va mettre l'accent sur 2022 pour essayer d'aider et d'accompagner sa jeunesse. Je vais en profiter pour citer Sabine Vereyen qui, cette semaine au Parlement européen, a dit « La pandémie de Covid-19 continue de toucher les jeunes de façon disproportionnée. Ils sont confrontés au défi d'essayer de poursuivre leurs études et d'entrer sur le marché du travail, de faire de nouvelles connaissances et de découvrir d'autres pays. Ils ont accepté et supporté les restrictions actuelles par solidarité et il est temps de les laisser s'épanouir. »
Exactement.
Comment l'Union européenne va laisser s'épanouir la jeunesse ? C'est en accent sur 3 points. Il faut les inclure, selon l'Union européenne. Il faut inclure les jeunes dans l'élaboration des politiques européennes et nationales. On a parlé tout à l'heure en définition de la conférence sur l'avenir de l'Europe, la COFI. Et c'est par ce genre d'initiative participative que l'Union européenne veut donner le goût du politique à la jeunesse et le goût de l'exécutif, au final, de vouloir avoir un impact sur les décisions.
De s'engager,
exactement.
L'avenir appartient aux jeunes et il faut que le projet européen soit porté par les jeunes aussi.
Exactement. Et l'Union européenne parle aussi, je ne sais pas comment ils vont le mettre en place, mais ils parlent de co-créer le programme de cette année avec la jeunesse. Vous pouvez retrouver ça sur le site du Parlement européen, je n'ai rien inventé. Ils parlent de co-créer avec la jeunesse. Du coup, il y a vraiment cette idée de rendre les clés à cette population qui, en fait, va construire demain. Et évidemment, le dernier point, et c'est celui dont je parlais tout à l'heure, Erasmus+, le budget a encore été augmenté. C'était déjà un des plus gros budgets
plus grosse augmentation.
Et a connu encore une augmentation pour une nouvelle fois favoriser les initiatives des jeunes, pas que les voyages, mais aussi leurs projets, parce que ça rentre en compte. Et l'enjeu, c'est de recréer cette dynamique de mouvement, parce qu'au final, ceux qui font avancer le monde, ça reste les jeunes. Et l'Union européenne en est tout à fait consciente. Et c'est pour ça que je vous souhaite une bonne année 2022, année européenne de la jeunesse.
Merci beaucoup, Anthony. J'en profite pour... on en parlera un petit peu plus dans l'une de nos émissions futures, mais j'en profite aussi pour citer le fait que, dans cette logique-là également, nous, en tant que Maison de l'Europe de Rome Ardèche, associés au Centre Régional d'Information Jeunesse et au Centre d'Europe Directe de Lyon, nous allons accompagner en particulier avec une labellisation Bureau Territorial Erasmus+, nous allons pouvoir accompagner d'autant plus les établissements, les enseignants qui souhaitent, les centres de formation qui souhaitent participer au programme Erasmus+. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous viendrons aussi à votre rencontre, mais nous sommes là pour vous faciliter cette participation au programme Erasmus+, pour justement donner la possibilité aux jeunes, qu'ils soient petits, hein, depuis l'école primaire jusqu'aux jeunes adultes et également tout ce qui est le personnel jeunesse, les enseignants, de pouvoir participer à ce beau programme Erasmus+.
Évidemment, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, que ce soit au 186 avenue Victor Hugo, sur nos réseaux sociaux ou au numéro de téléphone. Trouvez-nous et on fera tout pour vous aider et accompagner vos projets du mieux qu'on peut, hein.
Merci beaucoup. Eh bien voilà, on arrive à la fin de notre émission, notre première émission pour 2022. Merci beaucoup Ardiana, merci beaucoup Anthony.
Merci à toi.
Merci
Clément
Anna.
À la manette.
Merci Clément.
Merci Clément. On vous dit au mois prochain, on se retrouve en février.
Au mois de février, voilà, pour notre prochaine émission, l'Europe du côté de chez nous. On rappelle les deux rendez-vous importants du Centre Europe Direct.
Exactement.
Pour les deux mois à venir.
Prochainement, le 4 février, vendredi 4 février, à la MPT du Petit Charan à 18h, une rencontre avec Michel Rivasi et M. Maldacker autour des questions, des enjeux de la présidence française de l'Union européenne, de la conférence sur l'avenir de l'Europe et du couple franco-allemand. Et puis également, fin février, une soirée actualité européenne, le 28 février, à 18h, dans le local de ressources de la MEDA, donc la Maison de l'Europe de Romardèche, au 186 avenue Victor Hugo, à Valence.
Très bien, soyez
hâte de vous
tous
rencontrer.
Ouais, les bienvenus. Et après tout ça, on peut se dire maintenant au revoir. À bientôt pour l'émission du mois de février.
Ciao, ciao.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de progrès.
L'Europe du côté de chez nous.
Une coproduction, Radio BLV, Maison de l'Europe, Drôme-Ardèche.